sur franceinter.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Et la voix est libre pour Daniel Mermet, et c'est là-bas si j'y suis, fonçons.
Ouais, salut Daniel, bah, j'ai entendu juste les 10 dernières minutes de l'émission d'hier, alors ton appel et te nous angoisse, je pense, à peu près tous, là, en disant que l'émission serait peut-être pas conduite à la rentrée. C'est un peu flou, aujourd'hui c'est la dernière, alors est-ce que tu as des dates à nous donner, des échéances pour lesquelles on pourrait se mobiliser? Je pense que les auditeurs de là-bas si j'y suis sont assez imaginatifs et persévérants dans la façon de lutter, donc... Il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur, je pense. Monter à Paris, manifester sauvagement, enfin bref, autre chose qu'une pétition internet, une énième, comme on en signe tous plein. Je crois que si cette attaque-là était vraiment faite contre l'émission, ça pourrait vraiment être perçu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Certains ne mesurent pas bien le rôle de soupape et de canalisateur, que le rôle que remplit la base j'y suis auprès de tout un tas de gens exploités, révoltés. Il faut le montrer en place publique, c'est vraiment pas un problème. Voilà, bah tiens-nous au jus et bon courage, ciao.
Bonjour là-bas, alors là-bas, si tu y es plus, moi c'est Sam, je n'écoute plus France Inter. Voilà, j'avais entendu une fois qu'on était 500 000 ou je sais plus. Je pense qu'on a un bon moyen de pression et voilà, le boycott, ça me paraît la meilleure des choses. Merci pour tout et puis j'espère que ça va faire école. C'était Aline de l'Ariège.
Salut à tous, salut Daniel, c'est Philippe de Château-Thierry. C'était juste pour dire que j'ai failli tomber de la cabine de ma pelle tout à l'heure, hein, parce que les derniers mots que tu as eus dans ton émission, c'est « je ne sais pas si là-bas, si j'y suis, sera reconduit à la rentrée ». Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a survécu à la Chiraki, à la Sarkozy et pas à la Hollandie. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors mobilisons-nous! Non mais des fois, salut à tous, ciao ciao!
Bonjour Daniel, ce message s'adresse aux dirigeants de France Inter. L'émission de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, est un bien d'utilité publique. Ne la supprimez pas, s'il vous plaît. Sinon, on monte au créneau, on achète, on scotise, on achète une radio Daniel, et il aura toute la liberté pour faire toute la semaine. Ou alors, on monte devant le siège de France Inter et on sort nos pancartes. Merci.
Bonjour Daniel. Écoute, j'entends des rumeurs comme quoi ton émission s'arrêterait, donc je profite de la der. Pour juste un petit message personnel, je suis allée en voyage à Paramaribo, un peu à cause de toi, chercher l'arbre qui monte et qui ne redescend jamais. Et c'était très chouette. Salut Daniel.
Ouf. 26 juin 2014. Ouf.
Voilà un seul qui est content. On en a trouvé un, il y en avait sur toute la série de messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis au 01 56 40 37 37, il y en a un qui est content pour beaucoup, qui se font du mouron, qui s'inquiètent comme nous-mêmes. Il faudrait d'abord dire que la rue de Paramaribo, dans la ville de Paramaribo, il y a une rue qui monte et qui ne descend jamais. C'est effectivement la première émission que j'ai faite à l'oreille en coin, il y a bien longtemps. Eh bien, je peux vous dire, maintenant je le sais, voilà, 30 et quelques années plus tard, je sais que ça n'existe pas, cette rue. Je suis désolé de vous dire la vérité. Il n'y a pas de rue qui monte à Paramaribo. Alors, effectivement, par la bande, par la rumeur, on est très inquiet du sort de l'émission, du devenir de cette émission. On a évoqué... avec beaucoup de tact, l'âge du capitaine. C'est vrai que je vais avoir 72 ans à la fin de l'année. Ça a l'air d'être condamnable pour les directions qui sont les nôtres. Je voudrais dire que nous avons fait une proposition d'un passage de relais avec les autres journalistes et les reporters de là-bas si j'y suis, qui pourraient reprendre cette émission. Donc c'est pas un argument, en tous les cas, valable à nos yeux pour se séparer de cette émission ou la transférer au week-end. Mais vous le savez, là-bas si j'y suis depuis 25 ans, on le répète, c'est un sport de combat, comme la sociologie de Pierre Bourdieu. On en a vu des vertes et des pas mûres. On continue et on ira jusqu'au bout, on ne lâchera rien. Rien. Là-bas si j'y suis aujourd'hui. Alors je voudrais vous dire une chose, pour être informé sur le devenir notre, votre émission, vous pouvez aller sur labas.org, la-bas.org, évidemment, on a besoin de votre soutien, là vous serez informé, vous pouvez devenir AMG en trois clics, et puis nous soutenir. Mais enfin, il faut être raisonnable. Amputation ou la disparition peut-être d'une émission est sans doute moins grave que beaucoup de drames, de guerres ou de souffrances sociales que nous avons racontées, décrites au cours de toutes ces années. Mais sans cette émission, il se pourrait bien que beaucoup de drames, beaucoup de guerres et beaucoup de souffrances sociales ne soient pas décrites, en tous les cas pas connues de la même façon. Aujourd'hui, pour la dernière, on ne sait pas du tout encore, vous voyez, c'est le dernier jour de la saison, on ne sait pas ce qu'on devient, les cinq reporters de la base, j'y suis, ont choisi une séquence dans leur travail au cours de l'année, vous les connaissez, vous entendez leur nom toute l'année, ils sont tous, si cette émission s'arrête, ils sont tous au tapis, tous à Pôle emploi, c'est Guy Vanctil, 17 ans de la base, j'y suis, Antoine Chao, 14 ans.
Il est parti, il est parti.
Je me tais. Moi, je vais te dire.
Il en avait plein les poches.
Mais non,
je
ne
fais jamais je crois.
Moi,
oui, je suis sûr.
Bonjour à tous. Ah, bah, je viens d'apprendre, avec surprise, sans trop, mais enfin bon, qu'il y aurait peut-être des difficultés pour que l'émission soit reconduite à la rentrée. J'espère que non, hein, parce que alors là, non, alors là, c'est pas possible, ça. Non, ils vont oser. J'aimerais bien avoir plus de détails. Je pense que d'autres voudraient aussi en avoir. Ah non, 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 c'est pas possible. Oh non.
C'est Daniel Mermet qui s'adresse à son directeur. Si mon émission ne reprend pas à la rentrée de septembre, tous mes auditeurs vont se suicider. C'est d'accord. Mais j'aimerais que votre émission ne soit pas politique. Vous me comprenez? Il faudrait faire une émission un peu comme Michel Drucker. Ah, je préfère prévenir mes auditeurs que leur mort n'aura servi à rien. Je t'embrasse très fort. Bisous, c'était Babette de l'Isle-sur-la-Sorgue. Au revoir.
Bonjour les AMG. Pensez à vous inscrire sur le site de là-bas si j'y suis, si vous voulez être au courant de la décision de France Inter. Une histoire légère pour finir la saison avec le sourire. Un petit garçon se promène avec son grand-père sur le bord d'une rivière. Un héron prend son envol. Le garçon dit « Tapon, tapon ». Le grand-père le reprend et dit « Héron, héron petit, pas tapon ». Bon été à tous, au revoir.
On y arrive à Miroubouillé et on reprend la piste qu'on a prise il y a exactement 20 ans. Voilà, on arrive. Et voilà, et ben dis donc.
Là-bas, si j'y suis, au Rwanda, 12 mai 2014.
La nuit tombe un peu.
Ça sent le feu de bois.
De maïs, le feu de bois. Oh, oh, oh. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Génial, hein? On se retrouve.
Bonsoir.
C'est génial.
Voilà, voilà, voilà.
J'ai envie de lui montrer la photo à la lumière.
Voilà une photo.
Il faut ta maman.
Il y a 19 ans. Ça c'est ton âme. Hein? Ça c'est Vénéranda.
Vénéranda.
Ça c'est Vénéranda, c'est sans le mari.
Merci, merci, merci.
Ça fait grand plaisir. grand plaisir.
Ibi babiduhaye icyizere gikomeye kuko iyo tugezweho n'abantu baduteye inkunga kiriya gihe cy'intambara cya genocide. Tuba twumva dufite icyizere kidukomeje. Nk'ubu ndumva atubwiye amakuru meza y'uriya mwana, numva ndishimye ububabare tuba turimo muri iki gihe nkumva bugiye bugabanuka.
Savez quand on voit les gens qu'on a vus il y a longtemps, pendant le génocide ou juste après le génocide, quand ils reviennent, ça fait vraiment plaisir. Et puis on sent qu'on vit encore.
Ouais.
Ça refait vivre quoi.
Mbonye n'udufaranga nkagura gatenge,
Tu sais comment je suis propre quand j'ai de l'argent, j'achète mes pagnes, je sors, je suis belle sur la route. Même le bourreau, quand il me regarde, il dit, ouais, elle est encore là.
Parce que tu vois les bourreaux? Oui, nous les voyons, nous les vivons ensemble.
Vous
savez, nous, on se dit quand c'est des moments, si on continue à mourir de chagrin, c'est nous qui souffrons. Donc, à un certain moment, on se dit, bon, on va retrouver la vie, on va continuer à vivre, et sinon, on mourra de chagrin. Quoi.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la basse IJ Suite avec Guy Vanctil, Antoine Chao, Charlotte Berry, Annel Verzo et Gaylor Panvimarche.
Flight number 2. Arriving from
La basse IJ Suite, 20 novembre 2013.
Nous voilà. Ce soir, une cérémonie. On est dans un hôtel particulier, sous les dorures de la République, dans la demeure de l'ambassadeur du Qatar. Car ce soir, Mohamed Al-Kouhari, qui est en poste en France depuis une dizaine d'années, célèbre son départ. La cérémonie vient à peine de commencer. Eh bien, sont déjà arrivées des personnalités telles que Malek Bouti, par exemple, du PS, ou encore Frédéric Lefebvre, de l'UMP, mais également des chercheurs, des universitaires et des journalistes comme Jean Daniel, créateur du Nouvel Observateur, et également Pascal Boniface, le président de l'IRIS, l'Institut de Recherche Stratégique. Donc tout ce beau monde est rassemblé ce soir pour fêter, pour célébrer tout le travail qu'a fait l'ambassadeur du Qatar depuis 10 ans à Paris.
Alors que voilà Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, et qui vient serrer la main, là, très longuement, à l'ambassadeur du Qatar. Claude Guéant, grand ami du Qatar, ô combien impliqué à l'époque dans le déclenchement de la guerre en Libye contre Muammar Kadhafi, et qui était là également, eh bien, le Qatar, l'argent du Qatar, Claude Guéant qui avait contribué grandement à rapprocher la Sarkozy des émirs qataris et de leur pétrodollar.
Ici, vous êtes victime de la musique, là. Voilà. Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien?
Claude Guéant, vous êtes l'ancien ministre de l'Intérieur. On est ce soir à la cérémonie de départ de l'ambassadeur du Qatar.
Mohamed Al-Kouhari est un ami personnel. C'est quelqu'un à qui beaucoup de gens portent de la considération, de l'estime. Il a œuvré énormément pour faire connaître son pays, pour le faire apprécier, pour le faire estimer. Il a été aussi au départ de beaucoup de projets communs entre le Qatar et la France.
Vous également.
Pardon ?
Vous également.
Bon, moi, j'ai mené un certain nombre de projets, oui, bien sûr.
Contribuer à rapprocher la Sarkozy, on va dire,
oui,
du Qatar.
Comment dire ? L'objectif principal d'une diplomatie, c'est de faire en sorte que les pays s'entendent bien entre eux. Et il y a un intérêt tout à fait stratégique pour la France à avoir de bonnes relations avec le Qatar. C'est un petit pays, un pays riche aussi, mais c'est un pays qui a beaucoup servi l'Occident en général. C'est un pays qui sert la paix du monde.
Et l'amitié ? L'amitié entre les peuples, l'amitié avec la France.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'amitié. Nous savons qu'il y a des partenariats qui se sont noués dans le domaine sportif, dans le domaine de la communication.
Je croyais que vous alliez dire stratégique dans le domaine de l'économie, par exemple les grandes entreprises françaises aussi, comme Total, Veolia, Vinci.
Les grandes entreprises françaises, effectivement. Dans le domaine industriel, c'est vrai que le Qatar a pris des participations dans des entreprises importantes et ça fait du bien à notre industrie.
Ça, c'est parler et aborder des points plutôt positifs pour le Qatar. Mais j'aimerais vous entendre, par exemple, sur les Français qui sont retenus là-bas en otage. Il y a 4 de nos ressortissants. Ou également sur les travailleurs. On a vu avec les accusations d'esclavagisme où les entreprises françaises sont en concours hein, pour les stades, par exemple, de foot de la Coupe du Monde 2022. On dit que le Qatar, en Syrie, finance des groupes djihadistes radicaux ou également au Mali, l'argent du Qatar était soupçonné d'arriver. Vous qui connaissez bien l'Afrique.
Écoutez, vous avez dit le mot, est soupçonné, on dit que, etc. Jamais on n'a apporté la moindre preuve.
Ce ne sont que des rumeurs. Et pourquoi on ne vous entend pas, par exemple, sur les 4 ressortissants français, nos 4 compatriotes qui sont là-bas ?
Écoutez, on ne m'entend pas, tout simplement, parce que ça ne vous aura pas échappé, je ne suis plus membre du gouvernement.
Oui, mais vous pourriez faire des déclarations publiques, vous en allez, monsieur Guéant.
Je ne suis plus membre du gouvernement.
Ne me fuyez pas.
Donc je n'ai pas à dire un avis de la France là-dessus, je n'ai pas d'avis.
À l'époque, vous étiez proche du Qatar et ministre de l'Intérieur, on ne vous a pas non plus entendu beaucoup sur les affaires.
Jamais on a évoqué ces choses-là.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire, justement, puisqu'on l'évoque ?
Mais écoutez, il y a un gouvernement qatari, et le gouvernement qatari prendra ses responsabilités. Je ne doute pas un instant que les choses s'améliorent considérablement.
Une dernière question, M. Guéant. Dans les financements de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, vous êtes aussi soupçonné, par exemple, d'avoir participé à des versements de
Je suis quoi soupçonné de quoi ? Je suis soupçonné de quelque chose ? Un, je n'ai jamais rien d'un tel. Deuxièmement, je n'ai jamais participé à quelques opérations de ce genre-là. Et Nicolas Sarkozy non plus.
Voilà. Sur les financements libyens de la campagne de Nicolas Sarkozy.
Il n'y a jamais eu de financement étranger à la campagne.
On parle de 50 millions d'euros.
Écoutez, moi, je n'ai jamais vu rien de tel. Jamais. Ce sont des pures affabulations dont, pour ma part, je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Et vous me permettrez d'ajouter que je regrette de vous avoir répondu parce que vous m'avez dit, je vous interrogeais sur quelque chose, vous m'avez interrogé sur autre chose. C'est pas correct.
Les réceptions de l'ambassadeur sont réputés pour le bon goût du maître de maison, un goût raffiné qui charme toujours les invités.
France Info, 24 juin 2014.
La Libye de Kadhafi a-t-elle payé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007 ? Question posée aujourd'hui par Mediapart qui révèle l'existence de documents troublants. Des notes émanant sans doute des services secrets qui viennent d'être découvertes un peu par hasard par la justice. Élodie Guéguin.
À l'origine de cette découverte, une enquête pénale concernant un différend entre avocats. Plusieurs cabinets parisiens sont perquisitionnés, notamment celui de Thierry Lacoste, avocat entre autres du prince Albert de Monaco. Des documents sont saisis et le juge chargé de la perquisition tombe alors sur d'étranges notes, des notes blanches, confidentielles, qui ressemblent à des documents émanant des services de renseignement. Mediapart révèle que ces notes évoquent le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par le colonel Kadhafi. Toujours selon le site d'information, Maître Lacoste aurait expliqué que ces documents avaient été rédigés par un journaliste proche des services secrets. Le juge Serge Tourner, en charge du dossier libyen, tient absolument à verser ses notes à son dossier, mais l'ordre des avocats s'y oppose. À ce stade de l'enquête, le juge Tourner ne disposerait pas de preuves matérielles, étayant la thèse d'une possible corruption du clan Sarkozy.
C'est dangereux, ça ? Voilà, au cours de ces extraits choisis par l'équipe de la base où j'y suis, au passage, trouverez-vous peut-être des raisons pour lesquelles cette émission est aujourd'hui menacée. Après ce milieu mondain et ses dorures, un autre aspect du travail de la base où j'y suis, celui de Charlotte Perry, qui a fait un truc extraordinaire. Elle a réussi à franchir le périphérique pour aller dans les banlieues où il y a des jeunes de banlieue qui sont extrêmement menaçants, comme vous savez. Et pour nous, ils sont très intéressants.
Là-bas, si j'y suis, 28 novembre 2013.
Alors là, je me trouve à Grigny, à la Grande Borne. Je suis place de l'église, devant le terrain de boule, juste en face du local de l'association des boulistes et des retraités de la Grande Borne.
Je vais vous dire en toute sincérité, les gens ici sont échaudés par les journalistes.
Alors, donc, les journalistes, on les évite au maximum.
Alors, je suis désolé, mais moi, personnellement, je ne vous dirai rien. Maintenant, les autres... Bon, je suis désolé, mais on m'appelle. Allez voir les autres sur la place, peut-être que vous aurez plus de chance.
Elle arrive, voilà. Voilà, t'as à 3, c'est déjà bien.
Qu'est-ce qui a gagné alors là?
Ah bah c'est pour le moment, c'est nous qui marquons.
Oui, oui. Jusqu'à temps qu'on arrive à 13.
Ah, oui. C'est la tienne que j'en aime.
C'est bravo.
C'est comment votre prénom?
Ah, pour tout le monde, petit Claude.
Vous faisiez quoi?
Menuisier.
Depuis quand vous habitez à la Grande Borne?
Oh, depuis 73.
40 ans?
Eh oui. Bon, ben, beaucoup de changements dans la ville.
Qu'est-ce qui a changé, par exemple?
Ah, les habitants.
Comment c'était avant, les habitants?
Un peu mieux réparti.
Ça fait un moment que je fais les casses.
Voilà, tout a changé. Voilà.
Ah, vous pointez le jeune homme avec sa moto, ça fait du bruit.
Mais s'il n'y a pas que ça. Et la drogue et tout.
Il y a de la drogue?
Ben oui. Ils les connaissent et personne ne dit rien.
Ben non, c'est moi qui envoie ça. Alors ça nous fait jeu.
Il faut aller l'interroger, celui-là. Ah, quand les gendarmes sont là ou les flics, il n'y a personne, on ne les voit pas. Hein.
Ah non, t'es pas droit. En 71, j'y arrivais, c'était magnifique, c'était super. Mais maintenant, il y a trop de délinquants maintenant, il y a trop de voyous.
Deux policiers ont été blessés à coups de fusil de chasse la nuit dernière lors d'échauffourées dans le quartier de la Grande Borne à Grigny, dans l'Essonne.
Samedi soir, vers 22h, un commando a pris d'assaut un train arrêté en gare de Grigny.
Dans l'actualité également, des policiers pris pour cible à Grigny dans l'Essonne, certains par arme à feu.
6 cocktails Molotov et un fusil de chasse.
J'ai peur.
Attends, excusez-moi.
On n'a pas envie de déplacer des garros? Vous n'avez pas une cigarette, s'il vous plaît?
Il y a cher, les cigarettes.
Ah, c'est quand même en plus. Mmh.
Il faut les braquer.
Voilà, c'est nous!
Bonjour.
Douma est là. Bosca est là.
Vinka est là.
Kalash est là.
Scarra est là.
Cocaine est là. Tout le monde est là.
Kevin Coco est là.
Les bâtards.
Parce qu'on est de cité, tout le monde dit on est des voyous. On n'est pas des voyous, c'est pas parce qu'on traîne dehors, on est là. Enfin, si on est là, c'est parce qu'il y a des gens, ils sont là. S'il n'y a personne, on va rentrer chez nous tous. Nous on ne vend pas, nous on consomme seulement. On mange tous les jours. On prend déjà, comme ils disent, le petit-déj. Le truc qui cause des problèmes à l'État français, au gouvernement.
Vous vous appelez comment?
Je ne vais pas totalement vous dire mon blaze, mais bon. On va m'appeler K, Mr. K.
Là, on est à côté de la place de l'église, c'est ça?
Oui, là, vous êtes exactement au miroir.
Au miroir?
Ouais, au miroir.
Bien propre.
Les voyous ici, c'est les policiers pour nous.
Non! Tu vois, ils viennent de me dire, faites attention. Parce que tout à l'heure, ils étaient là-bas. Tu vois?
C'est la vieille dame qui vous prévient qu'il y a la police dans le coin.
Quand la police arrive, tout le monde est prévenu.
On se met sous l'arbre, dès qu'il
pleut? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, si vous voulez. Je m'appelle Smo. 20 ans, ici de Grigny. Mon père, il travaille en logistique. Ma mère, elle est femme de ménage. Voilà, quoi, c'est pas facile.
Et vous faites quoi dans la vie pour vivre, justement?
Personnellement, on travaille de notre côté.
Intérimaire,
On est tous des intérimaires, on est tous des débrouillards, on essaie de se débrouiller. Un peu tout, même du black.
Il faut être débrouillard, sinon c'est la merde.
C'est les mots qui t'appellent comme ça.
Et comment tu veux pas aller faire des trucs comme ils disent, on fait du sale, des trucs abusifs? C'est la crise. On est obligé de, à un moment, de mettre la cagoule, prendre les gants, prendre le truc et aller. Après, t'arrives de bourbier. Mais toi, t'as rendu ton compte, t'as accompli ta mission. Mais non, c'est la merde. On est dans un monde, c'est bordélique. Tout le monde cherche à manger et il n'y a plus rien à manger. Et on va voir, dans pas longtemps, ça va être la merde.
Nous on est tous à l'attente, on a tout ça.
Parce qu'il y a des gens, ils ont faim.
On attend justement quand la France va partir en couille d'ici quelques années, vous allez voir. Tout ça là, ça va devenir chaud. De toutes les manières, de toutes les façons, on va le faire cette putain de maille. Nous aussi on veut se mettre au burn. Nous aussi, on veut voir notre famille heureux. Même que nous, on n'est pas heureux, tant que la famille derrière, ils sont bien, nous, on s'en bat les couilles.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est comme ça. C'est la vie. Nous, on n'a pas des hélicoptères, on n'a pas de villa. Regarde où on habite, c'est nous qu'on nous critique, et c'est nous qu'on se fait salir.
Eh, hey, la crise, il n'y a pas de crise. La crise, elle n'existe pas. La crise, elle n'existe pas. C'est eux, ils ont tout mis dans leur poche, ils ont dans une île, eux, là-bas, tu sais pas où. Attendez, ils ont tous leur argent. Wesh, mon pote.
On va faire comme les pirates y font. Maintenant, ils veulent quoi? C'est la crise, maintenant. C'est la crise. On va se manger entre nous. Tu vas venir, tu vas manger ton ami. Nous, on ne peut pas détourner comme eux. Nous, on fait quoi? On reste dans notre quartier. On préfère faire notre marché. Mais ça les dérange. Maintenant, on va trouver une méthode. On va venir chez eux, maintenant. C'est tout simplement.
C'est des corrompus.
On va aller manger eux, on va aller chez eux, et là, on va traumatiser.
Eux, ils ont leur gang, c'est l'État. Nous, on a notre gang, c'est le game.
Et le game, comme on parle, c'est tous les quartiers de la France. Nous, on est des soldats sans grade. Voilà. Ils ont des patins, nous, on n'en a pas. Voilà. Mais nous, on est chaud pour y aller.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes. Traînons plus bas que terre, ceux qui nous l'ont déjà fait. Prendre le mal par le mal n'est pas bon en effet. Mais la rage
et la frustration
empêchent
à la réflexion.
Est-ce Dieu ou le diable qui guide toutes nos actions? Sache que derrière nous il y a Beauval ainsi que les Lilettes. Tous les départements du 01 au 77. J'ai accompagné de dix à côté de mystiques réagissent.
Notre tendance à l'extrémisme est poussée par le lust de la justice.
Strictement
hardcore.
La jeunesse est désespérée, elle est
hardcore.
Et rien ne pourra l'arrêter.
Quoi qu'il arrive, nous saurons aussi nous défendre.
Car tu ne te doutes que tout vient à boire à qui c'est à tort.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Attendez,
là-bas, si j'y suis, en Bretagne, voilà. Usine Tilly Sapco, 18 novembre 2013. Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Bonjour,
Anaël.
Jérémy.
Enchanté.
Bonjour, Michel.
C'est la salle de pause. Vous vous appelez comment?
Bernard.
D'accord.
Je suis rentré ici en 81.
Alors, il y a
32 ans.
32 ans.
On n'est pas très optimiste, hein. C'est clair que les gens, ils espèrent, on espère tous, hein, qu'il reste, on a un petit espoir de garder notre emploi, mais on sait très bien que c'est derrière, on n'a aucune aide, on sait très bien que ça va être compliqué. Ouais, ouais. Malgré que, je pense que du poulet, ça doit se vendre, ça se vend, et c'est une des viandes les moins chères du marché, on ne comprend pas.
Ouais, s'ils n'ont pas une enveloppe pour nous sauver,
Une grosse enveloppe.
Une grosse enveloppe. C'est pas une petite. Hein.
S'il n'y a pas de changement, le 4 janvier...
S'il n'y a pas d'enveloppe, c'est fini le 4 janvier. Et on espère qu'il y aura une enveloppe.
Ouais. On se battra jusqu'au bout.
On continuera, de toute façon.
On n'a plus rien à perdre, de toute façon.
Là, on ira jusqu'au bout. Hein.
C'est maintenant qu'il faut se...
Je n'admets pas qu'une usine comme ici se casse la gueule.
Merci. Allez, c'est parti.
Voilà.
Ça sent? Il y a une odeur?
Oui, alors là, c'est les coproduits qui... la cuisson des coproduits. Alors, les coproduits, c'est les têtes, pâtes et viscères qu'on cuit pour faire de la farine pour le marché pet food.
Merci. C'est là qu'il y a tous les équipements.
Voilà, je vais vous donner une blouse, donc des bottes et puis une charlotte pour pouvoir visiter parce que c'est la règle au niveau sanitaire. Une charlotte rouge, c'est pour mettre sur la tête, pour protéger. Un petit chapeau rouge, le bonnet rouge.
Ouais, c'est le bonnet rouge.
Tenez.
Merci.
Hein ?
Elle est grande cette usine, Eric.
Oui, elle est très grande puisque effectivement, à l'époque, dans les années 80, c'est une usine qui tuait 1 600 000 poulets, mais en 8 heures, au lieu d'aujourd'hui où on est en 3 fois 7 heures.
Et combien de poulets?
1 600 000 semaine.
1 600 000 poulets par semaine.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, on va poursuivre vers le quai d'accrochage.
Ça sent très très fort.
Oui, effectivement, parce qu'on rentre dans le quai d'accrochage où le poulet est encore vivant, donc il y a la fiente de volaille dans les caisses et ainsi de suite. C'est pour ça que ça sent fort.
Donc on a une capacité d'abattage de 24 000 à l'heure.
Oui. 24 000 poulets par heure.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est le rendement.
Ça, c'est le rendement. Mais donc nous, notre outil aujourd'hui, pour être très compétitif, il faut faire du volume. Sur les marchés sur lesquels on est, on doit faire du volume. Alors, on va aller voir le poste d'accrochage actuellement. Donc on va voir les accrocheurs en train d'accrocher les poulets vivants. Alors vous allez les trouver dans une zone très confinée avec une lumière bleue. Cette lumière bleue, c'est surtout pour éviter que le poulet soit stressé avant d'être accroché sur la chaîne et surtout avant d'être électrocuté et saigné, parce que le poulet ne doit pas être stressé. Il va partir pour le saignage, c'est-à-dire il va être endormi d'abord le poulet, et ensuite il va être saigné, et ensuite il va être échaudé pour être déplumé.
Je ne sais pas s'ils vont pouvoir nous parler, parce qu'ils ne peuvent pas lâcher les mains.
Non, pas trop, non. Effectivement, c'est difficile là.
Voilà, là, il y a trois personnes qui sont en train d'accrocher les poulets par les pattes sur les crochets, les poulets vivants, et ils sont dans l'obscurité, ils font ce geste répétitif. Hop, ils prennent le poulet dans la bassine et ils l'accrochent en face d'eux sur les crochets. Là, il y a des poulets qui s'agitent, qui agitent les ailes. Et il y a cette lumière très très faible, bleue. Il fait presque noir. Hein. Et il y a une femme qui a un masque d'hygiène pour se protéger, pour ne pas
ici,
respirer les.
Alors ici, bien sûr, il n'y a que des hommes dans ce poste-là. Hein.
Ah, il n'y a pas une femme là au milieu ?
Non, c'est un homme.
Vous êtes sûr?
C'est vrai qu'on a du mal à les reconnaître avec leur chalotte, mais non, il n'y a que des hommes. Hein. C'est un travail trop pénible pour qu'il y ait des femmes, donc on ne peut pas se permettre de mettre des femmes là. Du matin jusqu'au soir, pendant les 7 heures de travail, ils sont dans le noir.
Sur ces lignes, il y a des poulets qui défilent.
Alors, ça s'appelle l'autoroute du poulet, parce qu'effectivement, quand on est en bout de ligne et quand on voit le fond, on croirait qu'on est sur l'autoroute. Hein, voilà. On appelle ça l'autoroute du poulet chez nous.
Et hop, un poulet éjecté.
Vous voyez, le poulet qui tombe dans la case là, il est convoyé dans l'atelier du conditionnement pour être encaissé dans le carton.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la dame?
Voilà, cette dame là, elle contrôle effectivement, vous voyez, si les poulets sont bien vidés, s'il ne reste pas des éviscères dans le poulet.
Les poulets défilent.
Oui,
face
effectivement,
à elle.
Ben, voilà, la chaîne tourne, elle a une cadence de 8500 à l'heure. Donc la chaîne ne s'arrête pas, donc il faut suivre quoi.
Elle est toute seule là, avec ses bottes en caoutchouc.
Oui, tout à fait, avec son tablier. Donc elle passe ses 7 heures de temps à contrôler si les poulets sont bien vidés et qu'il ne reste pas des éviscères dans le poulet.
Ça sent assez fort hein, dans cet espace là.
Comment?
Je dis ça sent assez fort.
Ah oui, tout à fait. Ben, le poulet est chaud là, hein, il n'est pas encore refroidi. Donc effectivement c'est un poulet chaud, hein, donc avec l'odeur des éviscères.
C'est assez étonnant comme image, hein, parce qu'elle est toute seule au milieu de tous ces poulets tout autour d'elle. Elle est vraiment cernée de poulets.
Ah oui, elle est vraiment seule. Hein, dans l'atelier, c'est la seule personne dans cet atelier-là.
Poulet. 728 120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Décembre 1998 à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé, chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728 120. Je je t'aime, je pense à toi.
Réac, à la FIAC.
Là-bas, si j'y suis, 6 novembre 2013.
Franck Lepage, alors nous voilà au Grand Palais, nous voilà à la FIAC, et c'est la première fois, j'avoue, que je viens à la FIAC. On va bavarder comme ça, chemin faisant, visiter ça, découvrir aussi, Franck.
J'espère être élevé spirituellement, enfin, je m'attends à ce qu'il y ait un choc entre des œuvres et moi, quand même.
Ouais, c'est ça.
Par contre, ça serait bien si vous touchiez pas l'œuvre.
Mais qui achète ça? Et ce sera combien? Et ça, vous l'avez vendu?
Vous êtes un malin, vous.
Non, mais vraiment, je... Ah bon, d'accord. Bon, ben on vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Donc là, on est devant une Ferrari qui a été explosée à coups de marteau. Alors tout le monde s'arrête, tout le monde la prend en photo. Hein. Et donc voilà, c'est un symbole fort hein, pour le dire quand même. Enfin, je veux dire, il faut reconnaître quand même le courage de l'artiste. Enfin, tu vois, le message politique est quand même. En plus, elle est rouge. Hein. Enfin, bon,
t'as un texte d'un Afghan qui a été arrêté et torturé. Donc là, ça manifeste, ça proteste, ça libère l'homme. Là-bas, t'as un cul, t'as un gros cul. Alors là, on ose, tu vois. On vous met ça sous le nez, quoi.
Ça, hein. Ça c'est vraiment en tournant, en pivotant dans l'allée centrale de la FIAC. Quoi. C'est juste un petit 360.
Subversion obligatoire. Provocation obligatoire. Le chantage,
il est... Il ne peut pas y avoir de critique de gauche de l'art contemporain. C'est impossible, d'accord ? Et cette critique, il faut absolument la construire, parce que ça n'est pas de l'art contemporain, c'est de l'art de marché. C'est même une destruction, enfin, de la question artistique. L'art contemporain réalise un des rêves du capitalisme, qui est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse. C'est-à-dire avec des installations minimalistes, tu sais, deux bouts de machin posés sur un bout de truc qui valent immédiatement des sommes complètement délirantes. Ça permet de montrer qu'on peut fabriquer de l'argent en éliminant complètement le travail humain, en se passant de nous. Ah ben, il y a un crochet dans le mur. Est-ce que c'est une œuvre ?
Ah, un crochet, un anneau et un crochet.
Un anneau et un crochet, ouais.
Voilà.
Dans un mur.
J'ai pas très bien compris, franchement, je me sens un peu idiot, mais le crochet, là, dans le mur...
Le crochet, c'est une œuvre de Valentin Caron.
Ah, j'ai pensé que c'était... On attendait d'accrocher la toile à ce crochet.
Vous êtes un malin, vous.
Non, mais vraiment, je... Valentin Caron, ça.
Par contre, ça serait bien si vous touchiez pas l'œuvre.
Ah bon, d'accord.
Mais non, en l'occurrence, cette œuvre-là, ce crochet, il se vend?
Bah ici, on est dans une foire d'art contemporain, donc en effet, ça se vend.
La question qu'on a envie de poser, c'est ça se vend combien?
Cette pièce vaut 15 000 francs suisses. Environ 13 000 euros.
D'accord.
Ça, c'est très provocateur.
Non, je pense que c'est pas la provocation, c'est un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un basé dans le temps et l'espace, qui, à travers son regard, observe le monde. Il nous offre une traduction vis-à-vis de son histoire personnelle, vis-à-vis de l'histoire de son pays, vis-à-vis de l'histoire de l'art. J'éprouve quelque chose et j'ai envie d'en parler.
Mais alors, je vais le mettre où, le crochet?
Faut que tu aies une grande maison avec un mur blanc, parce que si tu le mets dans un endroit...
Est-ce qu'il n'y a pas une partie du truc, c'est de te faire sentir con, parfois?
Je pense, oui, bien sûr.
Parce que d'entrée de jeu, on est coincé, inhibé par un petit mécanisme très malin, qui est que ici tout le monde est subversif, tout le monde fait de la provocation, tout le monde rigole, tout le monde met en abîme, si bien que... Si jamais tu dis, mais attendez, non, tu passes pour un réac.
C'est ça.
Donc comme tu veux pas passer pour un réac, ou bien tu dis rien, ou bien tu approuves, ou bien tu fais semblant de ressentir, comme tout le monde qui fait semblant de ressentir ici.
Alors là, c'est une plante verte, mais qui est penchée.
Ah ça, oui.
Peau.
Alors ça, c'est bon. Ça, attends. Je vais tester un peu la méthode.
D'accord.
C'est un travail qui joue sur le vivant, oui. Et l'inerte.
Oui, c'est pas mal ça. Oui. Et qui met en tension... l'incertitude profonde de l'artiste dans son parcours, dans sa linéarité essentielle.
Tout en s'inscrivant, je tiens à le dire, dans la durée aussi, puisque oui. C'est la plante qui pousse.
C'est l'image de la plante qui pousse, qui met le temps, comme la maturation de l'œuvre elle-même, de l'artiste. Et puis peut-être un jour elle tombera aussi, parce que les artistes aussi sont éphémères.
Et il y a cette verticalité quand même, la plante qui se redresse. Si le pot est de travers, la plante, oui. Elle se redresse vers
oui.
Le soleil.
Oui, parce que l'art résiste et que l'art sera toujours plus fort que la vie, on peut le dire.
Il y a une résilience.
Oui.
Alors docteur, je suis bon ou pas?
C'est pas mal. Là c'est typique, on prend les paris. Là-bas, le tapis qui est roulé, c'est une œuvre ou c'est pas une œuvre? Ça n'est plus du tout l'œuvre qui est au centre. L'œuvre n'est plus que le support d'un marché pour que des gens comme François Pinault défiscalisent leur pognon, enfin tu vois. Là où ça devient problématique, c'est que pour que François Pinault puisse défiscaliser ou placer son pognon sur deux bouts de moquette collés face à face, il faut que ça soit garanti par un État, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent public qui soit mis là-dessus. Et là, du coup, on peut se poser la question, on a le droit de s'en mêler. Après, les riches font ce qu'ils veulent entre eux. Je vais à partir du moment où il faut qu'il y ait un ministère qui achète ces œuvres. Depuis 1991, par décision du Conseil d'État, le prix d'achat des œuvres d'art par l'État est tenu secret. Parce que ça pourrait nuire à la cote de l'artiste. Enfin, tu vois, je veux dire. Quand même,
ça pourrait dévaloriser la cote de l'artiste.
Évidemment. Tu peux faire n'importe quoi, on s'en fout. Enfin, tu prends 10 bouteilles, tu les peins en rouge. Dès lors que trois instances de légitimation, médias, marché, ministère, c'est une petite clique comme ça de commissaires qui décide que telle personne sera un artiste, que tout ce qu'elle fera peut valoir énormément d'argent. C'est comme ça qu'on fabrique un marché.
Et je suis en train de me dire que, à part vous, on s'est pas fait que des amis. Avec la passion, il y a que vous qui sont devenus vos amis, mais il y a beaucoup qui ne le sont pas du tout et qui ne sont pas tristes du tout aujourd'hui, croyez-moi. C'est à eux que cette dernière heure de la saison, pour l'instant, puisqu'on n'a pas de précision, est dédiée. J'ai mis des années et des années. Pourtant, je suis vieux. Vous avez vu, pour France Inter, je suis bon pour la benne. Mais j'ai attendu 71 ans pour noter sur un petit carnet au Brésil, à Rio, une expression de Paulo Freire, un grand pédagogue et théologien de la libération. Cette phrase, elle dit ceci. Lutter, c'est éduquer. C'est tout simple, hein, mais c'est bien formulé. Et c'est ce que nous avons fait, et que nous faisons, et que nous ferons encore. Lutter, c'est éduquer. Elles sont en grève de la faim depuis 10 jours. Elles s'appellent Monia, Sonia, entre autres. Ce sont des femmes, des Tunisiennes. Vous vous souvenez de l'engouement pour la révolution tunisienne, la révolution de Jasmin. On y est allé, on a accueilli un peu de Jasmin, puis on y est revenu. Je parle de... pas nous. Nous, on y est retourné. Et Antoine Chao est retourné à l'écoute de ces femmes très, très courageuses. Lutter, c'est éduquer.
Là-bas, si j'y suis, 18 février 2014.
Il y a un bombage là sur le mur à côté de la porte et c'est marqué « On lâche rien ». On lâche rien. On lâche rien. Super. Alors, Sonia et Monia, là on prend un grand taxi. C'est des taxis collectifs.
On prend un taxi collectif. On va aller à la société SEA La Telec.
Alors, SEA La Telec.
Société équipement aéronautique La Telec. Groupe La Telec.
Donc là, vous allez aller distribuer des tracts, oui, pour appeler à la grève et au blocage demain,
oui,
de l'entreprise,
oui,
La Telec.
Oui.
Et la direction est en train d'essayer d'empêcher,
d'empêcher
ça,
les
ou
employés
de les dissuader, pour...
oui,
de faire grève.
Oui.
Enfin, La TECOER, ils disent toujours qu'il n'y a pas de problème.
Alors, La TECOER, c'est une grande entreprise française, hein, de construction aéronautique, qui est basée à Toulouse et qui a ouvert une filiale en Tunisie il y a 14 ans. Mmh, ça, oui, se passait plutôt bien. Donc, mmh, elle a ouvert une deuxième,
câblage. On
un
fait
deuxième
le circuit,
atelier de câblage,
oui,
câblage à Fouchana, oui, dans le gouvernorat
de
Benarous.
C'est
le Grand Tunis, hein, c'est
Tunis,
la banlieue. Quoi.
La banlieue industrielle, c'est la plus grande zone industrielle, c'est à Benarous. Sonia Jebali, la secrétaire générale du syndicat SOA La Telec Fouchana. J'ai travaillé à cette usine en 2006, voilà, le 18 juillet 2006. Je suis licenciée en 2012. Pourquoi ? On a créé un syndicat en 2011. On a travaillé sur les conditions de travail, on a amélioré les conditions de travail. On a travaillé sur le congé, on a travaillé sur les heures sub, on a travaillé surtout sur les salaires de misère, on a travaillé d'arrêter les dépassements, les abus, les harcèlements sexuels. Et bah, la direction, ils ont décidé de nous licencier. Ils ont arrivé à licencier 220 contractuels.
Ils vous ont proposé de l'argent ?
Oui, ils ont proposé de l'argent, ils ont proposé un salaire de cadre, une poste importante, ils ont proposé une voiture à moi, le secrétaire général. L'avocat, il m'a dit, on a des infos que vous habitez très loin et vous avez des problèmes pour le transport. On a décidé, nous, la direction, de vous offrir une petite cadeau. C'est quoi le cadeau? Il m'a dit, voiture. Mais pourquoi? Il m'a dit, je suis comme votre frère. Ben, je sais très bien que j'ai 6 frères, j'ai pas 7 frères. Elle m'a dit, bon, vous êtes libre, mais c'est un petit cadeau. Et tous les syndicalistes en Tunisie, ils acceptent les cadeaux. Pourquoi toi, tu n'acceptes pas? Je lui dis, non, je suis là pour travailler, c'est pas pour prendre le cadeau. Et si j'arrive à signer ce projet, peut-être je peux acheter une voiture toute seule. La direction, ils ont proposé des indemnités. On a refusé les indemnités parce qu'on veut notre droit d'abord comme des travailleurs. On ne va pas l'accepter, on va lutter jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement pour Sonia et Monia, les employés, mais pour tous les syndicalistes et les travailleurs de la Tunisie. Et pourquoi non, du monde.
Du monde.
Voilà, et on va réussir. Aujourd'hui, je suis fière parce qu'il y a des gens, des employés, des travailleurs à l'ESSO, à la TILEC, malgré tout ça, malgré le menace, malgré les conditions de travail terribles, ils sont prêts de faire le grève avec nous. Je ne suis pas contente parce que notre pays, jusqu'à maintenant, prend l'employeur comme le premier décideur. Et ça, c'est pas bon. On veut travailler, on veut les usines ici, mais c'est pas comme des esclaves.
Je me présente, Mounia Dridi, 31 ans, syndicaliste de section IGTT au sein de la SOA Latelec, groupe Latécoère. Maintenant, je suis renvoyée, licenciée, avec expérience de licenciement de 10 mois.
Et vous demandez votre réintégration, hein,
oui.
C'est ça. Voilà, oui. Tout comme Sonia.
Oui. Et tous nous sommes 10 licenciés et les 10 demandent que la réintégration.
Ici à la Télec et on vient d'arriver devant l'entreprise.
Oui.
Voilà.
La direction, elle va voir Sonia et Monia et Wassila, elles vont être perturbées.
SEA à la Télec, groupe Latécoère. Entreprise sous douane, accès interdit à toute personne étrangère à la société.
C'est un membre de syndicat qui est encore à l'usine.
La femme qui était là?
Oui.
Ah oui.
Elle va coller ses papiers dans le tableau d'affichage de syndicat parce que la direction a collé que le grève est illégale. Avec ce tract, on va dire que c'est faux et ce grève est illégal.
Et donc là, il est bientôt 4 heures et les ouvriers vont sortir. Enfin, les ouvrières, parce que c'est 80% de femmes qui travaillent
oui.
À la Télec. Ouais.
Dans quelques minutes.
Ah, ça y est, la porte s'ouvre, là, la grille bleue.
Ça va?
Ça va? Un dollar.
C'est la distribution des tracts.
Oui.
Voilà. Là, il y a toutes les employées qui sortent, ouais. Voilà, qui viennent vous faire la bise. Ouais, Sonia, tout le monde vient lui faire la bise. Et Monia aussi.
Ça va, grand bisou.
Ah, c'est les grandes embrassades.
Ça va.
Ça faisait longtemps que vous ne les voyez pas?
Oui, longtemps.
Et elles ont défendu vos droits, alors?
Vous avez... Oui, bien sûr.
Défendu, il faut qu'elles reviennent, c'est ça, vous êtes pour leur réintégration.
Oui, 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 on a besoin, on a vraiment besoin qu'ils reviennent.
La sortie des usines Latélec, Tunisie. Il y a des hommes aussi qui sont là, des jeunes hommes qui viennent. Ah, c'est Sonia.
Demain, nous sommes là. Après-demain, nous sommes là. Et après, on nous sommes là.
Grève. On reste soutenir nos amis.
Vous n'avez plus peur.
Vacciner. Contre la peur.
Merci. Merci Sonia, merci Monia. Pensez pour Maria Dofetal. C'était là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, Anna Elverzo, Kélorvan Vimerche, Guy Ventil et Antoine Chao. On se quitte plus. Tout l'été, vous pouvez nous retrouver sur là-bas.org, là-bas.org, pour tout savoir sur le devenir de cette émission. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Allez sur là-bas.org, là-bas.org. Il y a aussi la page Facebook de là-bas si j'y suis, où nous vous donnerons des informations sur le devenir de cette émission qui est votre émission. N'oubliez jamais que Radio France est à vous et que France Inter, c'est à vous. Il y a 2000 émissions, plus de 2000 émissions archivées sur le site là-bas.org. De quoi passer un bel été. Les messages très nombreux que vous nous avez adressés, vous pourrez les réécouter à partir de tout à l'heure sur là-bas.org. On fera ça au cours de l'été, si on peut vous faire entendre les messages que vous nous adressez. Et là, au moins, on a de la place. Et puis, on se retrouvera aux prochaines rencontres d'économiques qui auront lieu les 4 et 5 et 6 juillet prochains à Aix-en-Provence, avec des gens aussi peu fréquentables que Gilles Balbastre, Serge Halimi, Renaud Lambert, François Ruffin, Aurélien Bernier et bien d'autres, d'économiste.org. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur là-bas.org, je le redis encore, là-bas.org, et la page Facebook. À la technique aujourd'hui, Benjamin de la Gâtinais et Alain Gadan. L'émission a été réalisée par Lucia Kuhn, Franck Aderer, Jérôme Chélius et Guillaume Géraud, des génies de la réalisation, et préparée avec l'excellent Jonathan Durand. Stéphanie Fromentin, non moins talentueuse, attend vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis, 01 56 40 37 37. On en rigolera un jour, mais d'ici là, on ne lâche rien. Vous retrouvez tout de suite Hervé Pochon pour son temps de Pochon. Rien, rien. Là-bas, si j'y suis.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Alors ici, a lieu la grande finale du concours de biologie. Voilà, avec plus que 11 finalistes, la remise de prix, et puis après un marché autour de tout ce qui est autour de la biologie, un marché des saveurs pendant 3 jours.
La biologie,
oui.
C'est quoi?
La biologie, c'est pendant ce que vous avez pendant la sommellerie, c'est toutes les informations autour de la bière, les accords mets et bières, voilà, comme un sommelier pourrait vous conseiller sur un vin, et nous on vous conseille sur une bière par rapport à un mets.
Bonjour à tous et bienvenue au Carreau du Temple à Paris, où se déroule donc la 9e édition de la biérologie. Et alors, où se passent les épreuves?
Alors, les épreuves vont se passer là cet après-midi, écrites et oraux. Grande finale, grande remise de prix ce soir.
Mais alors, ils sont où les candidats?
Les élèves, ils sont en bas, ils travaillent.
Je peux aller voir, s'il vous plaît?
Vous pouvez aller voir.
Si vous êtes là en tant que finaliste, c'est que vous êtes déjà dans ce mouvement amorcé avec la biologie, avec tout ce que vos professeurs vous ont enseigné, avec ce que vous avez travaillé par vous-même, vous êtes rendu compte par vous-même. Donc voilà, soyez, je dirais, les meilleurs finalistes de ce concours. Et puis, vous aurez effectivement des atouts pour réaliser tout ce qu'on vient de vous conseiller. Bravo.
Voilà, moi, il me reste une seule chose à vous dire. Bonne chance.
Oui, tout à fait. Alors, vous êtes biologue?
Oui, tout à fait. Alors, pour être biologue, il faut avoir un très bon palais. Ensuite, il faut être curieux de tout ce qui touche à la bière. Et, je dirais, faire des études pour approfondir le produit en tant qu'élaboration. Et puis, toute son histoire, sa géographie, ses éléments de mise en valeur, moment de consommation, dégustation.
Alors, quand on vous demande votre métier, vous dites biologue?
Ah oui, tout à fait. Mon métier est né en 2000. C'est une définition de fonction qui a été créée par un brasseur international, le troisième au monde, et qui a été homologué à l'international.
Dans le football, on dit que les Brésiliens sont un peu les meilleurs. Normalement, dans biologie, qui sont les meilleurs?
Alors, je dirais que la biérologie est née au Québec et nous avons donc les Canadiens qui ont été et qui sont toujours. Moi, dans mes jurys, j'ai Mélissa Cole, anglaise, qui se dit beer sommelier, elle se dit pas biérologue, qui est vraiment... nous en avons en Belgique, nous en avons en Allemagne, nous en avons en Autriche. Je travaille avec le monde entier. Le dernier brasseur avec qui j'ai travaillé est un jeune brasseur japonais.
Là, la suite des épreuves pour les candidats?
Alors, là maintenant, ils se reposent un tout petit peu et puis ils ont une épreuve écrite. Hein, oui. Donc une épreuve écrite qui va les amener effectivement à rédiger par rapport à une question posée. Et puis, comme ils aiment un QCM, il y a une partie QCM. Ils vont donc montrer qu'ils savent tirer des demi à la pression, qu'ils savent servir de la bière en bouteille, qu'ils savent réaliser des cocktails à la bière, qu'ils savent faire des accords entre un menu et une carte de bière, et ils vont faire une analyse sensorielle de bière.
Et alors, votre nom, c'est facile, c'est marqué sur votre badge, c'est Hervé Marziou, birologue expert. Voilà.
C'est bon pour vous ?
Oh, mais moi, c'est toujours bon, mais vous, c'est bon ? Comment ça se passe ?
Très bon début de journée, c'est plutôt sympa, plutôt bien.
On devrait marquer Fabienne Patria, organisatrice.
Donc, effectivement, j'accompagne l'organisation de ce concours depuis la première édition, depuis son origine.
Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que ce concours est organisé par une marque de bière, on va dire, verte, avec un H, mais on ne va pas la citer. Mais c'est un petit peu bizarre que ce soit une marque qui organise le concours. Pour que ce soit objectif, il faudrait que tous les brasseurs s'associent.
Dans la démarche, tout à fait, mais nous associons l'ensemble du monde brassicole à cette initiative-là.
Bon, ben, je vais aller voir les élèves maintenant.
Voilà,
on y va. Bon, merci.
On y va tous. Ego.
C'est la première fois que vous participez à un concours de biérologie ?
De biérologie, oui.
Et vous buvez beaucoup de bière ?
Une consommation modérée, on va dire. Mais j'aime beaucoup ça, oui.
Quelle est votre bière préférée ?
C'est la Pelfort Brune, moi. C'est une bière brune, donc qui se marie parfaitement avec des desserts caramélisés. C'est une bière ronde en bouche, donc c'est vraiment celle que je préfère.
Vous en parlez comme le vin, quoi.
Comme le vin, voilà. On peut associer la sommellerie et la biérologie. C'est très différent parce que ce n'est pas du tout le même produit, mais c'est vrai qu'au niveau de l'analyse, etc., on peut partir sur les mêmes bases.
Bon, et vous, Gauthier, alors ? Vous venez d'où ? De Bazeille ?
De Bazeille, en Champagne-Ardenne.
Mais on se moque pas de vous dans votre village, vous, que vous me disiez qu'il y a du champagne autour, vous soyez dans la bière, c'est pas celui qui a raté ?
C'est vrai que les associations du village sont très champagne. Mais moi, je suis tout à fait du côté, justement, de la brasserie, là. C'est ce que je trouve qui manque, en fait, à tous ces champenois. Cette façon de parler qui vient vraiment du fond, de la convivialité, l'envie de partager, c'est ce que j'aime dans la bière, en fait.
Deux filles, neuf garçons.
Oui, je suis pas la seule fille cette fois-ci. En demi-finale, j'étais la seule, donc je suis contente d'avoir une copine, une fille, pour me soutenir.
Et le gagnant est...
Charles Le Tessier, élève au CFA Médéric de Paris.
Bravo.
Un temps de cochon,
c'est terminé
aujourd'hui.
Et on se retrouve après l'été.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet.
L'assurance scolaire Matmut, elle n'est pas faite que pour l'école.
Non, elle couvre nos petits pendant les trajets entre l'école et la maison.
Ça alors, la Matmut, elle est forte.
À partir de 11 euros pour toute l'année scolaire. C'est du sérieux.
Monsieur, la Matmut, elle est sérieuse.
Offre valable du 25 juin au 1er octobre prochain pour toute rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h01. Le Flash, Laetitia Gaillet.
La France ne reviendra pas sur l'interdiction des mères porteuses, mais elle sera attentive à la situation des enfants nés à l'étranger de la gestation pour autrui. La réaction de Christiane Taubira cet après-midi à la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme ce matin. Dans une circulaire de janvier 2013, la garde des Sceaux avait d'ailleurs demandé aux greffiers des tribunaux de grande instance de faciliter la délivrance de certificats de nationalité à ces enfants de pères étrangers nés d'une mère porteuse à l'étranger. La SCDEH estime d'ailleurs aujourd'hui que la France ne peut refuser de reconnaître les enfants nés de mères porteuses, donc à l'étranger. 2296 dossiers de victimes du Mediator ont été examinés à ce jour et selon un nouveau bilan aujourd'hui de l'ONIAM, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, eh bien les experts ont émis un avis positif pour 544 d'entre eux. C'est pour Londres le pire prédateur sexuel de l'histoire de la Grande-Bretagne. Une enquête révèle aujourd'hui l'ampleur des abus commis pendant 40 ans par Jimmy Savile, l'ancien animateur vedette de la BBC. Selon Scotland Yard, il a abusé de centaines de patients dans 28 hôpitaux publics britanniques sans que le personnel ne s'en rende compte. Ils avaient entre 5 et 75 ans. Sa célébrité et le fait d'être président d'une association caritative a permis à Jimmy Savile de bénéficier d'un traitement particulier. Il pouvait aller et venir dans les hôpitaux très librement. Deux dirigeants d'une entreprise de démolition ont été condamnés aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Toulouse. 2 ans de prison avec sursis et de lourdes amendes pour avoir stocké illégalement des déchets amiantés. Ils ont été par ailleurs condamnés à dépolluer leur principal site de stockage situé sur la commune de Saint-Alban, près en banlieue toulousaine. On file à Wimbledon maintenant pour obtenir les derniers résultats du second tour chez les hommes. Raonic, le Canadien, s'est qualifié cet après-midi. Pas de bol par contre pour Cole Schreiber qui lui a été éliminé. Chez les dames, Serena Williams et Alizé Cornet, ça passe pour elle. Et donc Fabrice Abgral, on a du beau monde des Français encore sur le terrain aujourd'hui avec notamment Tsonga, Manarino.
Et Richard Gasquet, également mon fils actuellement sur les cours et tous les deux engagés dans une cinquième manche. Et Richard Gasquet qui a gâché trois balles de match dans le cinquième set sur le service de Kyrgios alors qu'il menait 5-4 et Kyrgios finalement a remporté sa mise en jeu. 5 jeux partout entre les deux joueurs dans le cinquième set. Quant à Gaël, mon fils, lui, il est opposé au Tchèque Jiří Veselý. 5-4 en faveur de Veselý dans le cinquième set. Il a bénéficié d'une balle de match. Veselý effacé par Gaël, mon fils. C'était irrespirable pour les deux Français, Gaël Monfils et Richard Gasquet. Et sachez que le vainqueur du match entre Gasquet et Kyrgios s'affrontera au prochain tour. Le vainqueur du match entre Veselý et Monfils, sachez qu'Adrian Manarino a perdu le premier set face à Tommy Robredo. 6-4 dans la première manche.
Et bien voilà, tout est dit. Fabrice Abgral en direct de Wimbledon. On vous retrouvera tout à l'heure. Mais pour l'instant sur Inter, 16h04.
Demain, à partir de 7h,
France Inter, en direct de Sarajevo.
Ça a débuté comme ça.
À la veille du centenaire de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand.
C'est la guerre qu'ils font.
Et du début de la Première Guerre mondiale.
Les émissions de France Inter s'installent pendant toute une journée.
Attention.
En direct et en public.
Un obus.
De l'Institut bosniaque de Sarajevo.
Jusqu'à minuit. Interview,
musique,
débat,
reportage
autour du Sarajevo d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Et à partir de 21h,
une soirée musicale exceptionnelle
avec le concert du pianiste de jazz franco-serbe Boran Zed.
Toute une journée en direct de Sarajevo.
En partenariat avec la Maison du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
À suivre demain sur France Inter
et aussi en webdoc sur franceinter.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Allez, Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Laetitia Gaillet, un de ces jours, on se reverra certainement dans les couloirs de la maison. Voilà. Et on vous retrouve de toute façon à 17h pour d'autres informations.
Donc à tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, voilà, c'est le dernier jour sur France Inter, mais le Carrefour de l'Odéon continuera à la rentrée, bien sûr, 2 heures par jour, toute la semaine, les jours habituels d'une quotidienne, du lundi au vendredi. Donc, je vous donne rendez-vous à partir du 1er septembre sur France Musique. C'est pas loin, il faut tourner le bouton un tout petit peu, chercher, voilà. C'est à peu de choses près sur la bande FM. C'est toujours une belle station du groupe de Radio France. Et dans la rue, on m'a dit « Ah ben, le Carrefour s'arrête ». Non, pas du tout, il continue, il grandit même. Alors venez, et surtout, dites-le autour de vous à partir du 1er septembre. Encore plus de musique, encore plus de rencontres, encore plus de... Tout ce que vous aimez, on vous attend sur France Musique de 16h à 18h dès le début de septembre. Cet été, ben, vous pourrez entendre des rediffusions de Plaisir d'amour sur France Musique déjà à cet horaire, d'ailleurs le même, de 16h à 18h à partir du 7 juillet, sauf le 14 juillet parce qu'on fait un peu autre chose le 14 juillet. Il y a d'abord un très beau concert sous la Tour Eiffel avec l'Orchestre National, le chœur de Radio France, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, quant à moi, je continuerai avec plaisir à écouter France Inter, évidemment, plutôt le matin, parce que l'après-midi, je serai ici dans cette belle maison. Alors, une petite promenade pour commencer, tiens. Si on allait du côté de Royan, il y a vraiment des moments délicieux, les jeudis musicaux. Et c'est l'agglomération Royan Atlantique qui propose cela depuis longtemps déjà. C'est Yann Le Calvé qui s'occupe avec ses collègues de tout cela. Et il y a des rendez-vous tout à fait accessibles déjà. Par exemple, ce soir, si vous allez à Médis, à 21h, quatuor avec Cordée au bois, je ne vais pas donner tous les noms, mais il y a quand même, je vois, Saskia Le Tillec, Valérie Aymard, et puis Saint-Romain sur Gironde, le même soir, ce soir même. Donc, dans l'autre sens, un récital de violon de David Petrelic. Et le 3 juillet, vous allez à Breuillet, à Mortagne, sur Gironde. Il y a, tiens, Raphaël Pidou avec Elodie Soulard à l'accordéon. Raphaël Pidou, fameux violoncelliste. Anne Kefelec à Mortagne, sur Gironde. C'est toujours le jeudi 3 à 21h. La Tremblade, Talmont, sur Gironde. Saint-Augustin-sur-Mer. Je me suis dit d'aller vite pour Ars, sur Gironde, pour n'oublier personne. Chez Yvette, Floirac, Arvers, Le Cher. Regardez autour de chez vous, demandez à l'office de tourisme. On arrive à des soirées thématiques, semaines thématiques avec Karine Dehay le 5 août et puis le 7 aussi à Cause, Les Maths, Saint-Palais-sur-Mer. Semaine thématique Carte Blanche au Quatuor Modigliani, Saint-Romain de Benet le 12 août à 21h, Mornac sur Seudre 11h le 14, Mécher sur Gironde, récital Edgar Moreau, invité du Quatuor Modigliani. Tiens, le voilà le Quatuor Modigliani. On a conclu hier avec une très belle interprétation d'un quatuor d'Arriaga, très jeune compositeur, mort avant 20 ans. Schubert, il a fait de vieux os, il est mort à 31 ans, vous vous rendez compte? Donc voici par le même quatuor Modigliani, l'allegro final du quatrième quatuor de Franz Schubert. Vous allez entendre ce ton populaire, ce ton intime parfois, ce ton savant, tout ça mêlé, c'est ça le génie.